Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, on s'intéresse au bienfait de la marche ce matin, bien fait pour le corps et l'esprit d'ailleurs. Je marche donc je pense, c'est le titre du livre écrit par nos deux invités, Roger Paul-Droit et Yves Agide, le premier philosophe et l'autre neurologue. Mais qu'ont-ils bien pu se raconter lors de leur marche et de là? On va voir ça avec vous, déjà d'abord professeur Agide. D'un point de vue physiologique, la marche c'est un petit miracle hein, je crois, c'est un mécanisme très complexe quand on y pense. Expliquez-nous.
Oui, c'est complexe, mais c'est curieux parce que jamais personne n'y pense. On a l'impression que c'est naturel. J'ai interrogé des gens, les gens ne savent pas, ils ne réfléchissent pas à la marche. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas conscient quand on marche, on n'y réfléchit pas, sauf si on veut imiter quelqu'un ou qu'on veut faire le malin, etc. Mais sans ça, par exemple, on parle, on se parle, et puis on marche en même temps, on ne s'en rend pas compte. Or, derrière tout ça, le système nerveux, ce qui se passe dans le système nerveux, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Pour simplifier, quand vous marchez, un, vous avancez, avec il y a les deux membres inférieurs qui font des pas comme ça, vous ne vous dites pas, tiens, je vais mettre le pied droit là, puis je vais mettre le pied gauche là, etc. Deuxièmement, pour avancer, vous êtes en déséquilibre, il faut garder l'équilibre. Et troisièmement, pour garder l'équilibre, il faut adapter la posture. Par exemple, on balance les bras, mine de rien, il y a des tas de muscles du tronc qui se contractent pour justement faire en sorte qu'on marche tout droit. Donc, on avance, on garde l'équilibre et on garde une posture. Tout ça avec des systèmes dans le système nerveux, dans notre cerveau, qui sont différents les uns des autres, évidemment très liés. Donc, on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans la marche, au point de vue physiologique, ces trois systèmes liés, comment ça se passe, le déroulé du pas, etc. Alors, la question qui nous a intéressé, c'est est-ce que quand on pense, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que c'est voisin? C'était ça la question.
Alors Roger Paul, marcher c'est une activité propre hein, aux êtres humains. On peut dire que c'est ça qui nous a permis de devenir justement des hommes au cours de l'évolution?
Ah, c'est à partir de cela qu'au cours de l'évolution, on reconnaît l'espèce humaine, ou ce qu'on va appeler les premiers anthropoïdes. Voilà. Parce que la manière humaine de marcher, elle est unique dans toutes les espèces vivantes. Il y a des ours qui se redressent un moment, il y a quelques grands singes qui peuvent faire quelques pas debout, mais occuper la plupart de son temps à marcher sur deux jambes, ça c'est la singularité absolue de l'espèce humaine dans toutes les espèces qui peuplent cette planète. Et cette marche, elle est très bizarre. Yves Agide vient d'expliquer combien elle est complexe à l'intérieur du cerveau, mais même elle est, par rapport à une marche à quatre pattes, elle n'est pas économique du tout. Il faut maintenir l'équilibre, mais pour pouvoir avancer, il faut commencer à se faire un tout petit peu tomber. Mmh. On amorce une chute, mais on met l'autre pied. Mais si vous mettez l'autre pied et c'est tout, vous restez immobile. Il faut donc recommencer cette petite chute. Et la singularité de la marche humaine, on a déjà repéré ça depuis le XVIIIe siècle et toutes les études depuis l'ont confirmé, c'est finalement d'être une chute provoquée, arrêtée constamment, continuellement, un déséquilibre permanent qui fait avancer.
Alors justement, professeur Agide, vous nous avez expliqué juste avant que marcher, finalement, c'est très complexe, mais on le fait sans même réfléchir. Et justement, vous qui êtes spécialiste des maladies neurodégénératives, vous dites que juste en observant un patient, quelqu'un marcher, on peut se rendre compte de certains dysfonctionnements du cerveau. Lesquels, par exemple?
Il faut bien comprendre, pour répondre à votre question, que dans la marche, il y a deux choses. Il y a d'abord la motricité. On l'a dit, le corps, les bras, surtout les membres inférieurs qui avancent, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans le cerveau. En fait, la marche, vous marchez grâce à votre cerveau. Ce n'est pas tellement vos pieds. Vos pieds, ce sont des exécutants, si vous voulez. Mais tout ça est commandé par là-haut. Autrement dit, dès qu'on a des maladies qui touche le système nerveux, soit la périphérie, les jambes, la moelle épinière, le cervelet, soit vraiment l'essentiel du cerveau, c'est-à-dire toute cette masse de presque 3 livres qu'on a sous le crâne, eh bien, il y a à chaque fois des défauts qui entraînent des symptômes très particuliers de la marche.
Comme par exemple Parkinson, oui.
Parkinson, mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il faut éliminer tout ce qui est, par exemple, des défauts orthopédiques. Si vous avez une coxarthrose, par exemple, ou une séquelle de fracture de jambe, vous avez ce que moi j'appelle le signe du maquignon. Vous savez, les maquignons, ils écoutent les entorses des jambes des chevaux au son, quand ils trottent. Et moi, quand je vois des gens qui rentrent dans le cabinet de consultation, eh bien, j'entends, et quand j'entends une petite boiterie, quelque chose comme ça, je me dis, oula, ça, c'est pas neurologique. Ah. Alors, si c'est neurologique, ben, on peut distinguer à chaque fois ce qui se passe. Donc, pour la maladie de Parkinson, qui est classique, effectivement, on a un défaut de structures qui sont au milieu du cerveau, qui entraîne un défaut de la marche, dont on sait que, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, c'est automatique. Mmh. Vous ne pensez pas que vous marchez. Et il y a des structures dans le cerveau qui gèrent l'automatisation de tous nos comportements moteurs, dont de la marche, auxquels on ne pense pas. Et par exemple, le parkinsonien, ben on le reconnaît parce qu'il marche d'une seule pièce, légèrement penché en avant, les bras ne balancent plus, les pieds frottent sur le sol. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, c'est des lésions de ces structures qui sont responsables des comportements automatiques. Autrement dit, le parkinsonien, il a perdu les mouvements automatiques. Il est obligé de compenser par la volonté.
Alors, ce qui est également propre à l'homme, on en parlait tout à l'heure, outre la marche sur deux jambes, c'est le langage. Et je crois qu'il est lié à la marche, selon vous, Roger Paul. De quelle façon on peut faire ce lien-là ?
Repartons de l'idée de la marche comme déséquilibre permanent qui fait avancer, une petite chute, etc. Comment avance la pensée, et en particulier la réflexion philosophique ? On a des certitudes, des convictions, des opinions que l'on a dans sa tête, eh bien, on va commencer par les mettre en cause.
Douter,
les déséquilibrer. Et puis ce déséquilibre, il peut faire peur. On voit ces certitudes ébranlées. On trouve des hypothèses de rattrapage, mais on va les questionner, on va en douter de nouveau. Et on avance dans la pensée par une série de déséquilibres permanents qui font progresser exactement, peut-être, comme nous avons l'habitude d'avancer debout en marchant physiquement par ces déséquilibres. Donc mon intuition de philosophe, c'était qu'il y avait un ancrage de notre manière de penser et aussi notre manière de parler, parce que les deux sont liés. Mais là aussi, on avance dans la phrase. Si tout d'un coup, je m'arrête comme ça, ça reste en suspens. Vous voyez, il y a une sorte d'avancement et de progrès de la parole qui va pas à pas. voilà, et qui fait que mes phrases marchent, comme mes pensées peuvent avancer, comme votre écoute aussi avance, d'une manière qui évoque profondément la marche debout. Et c'est cette hypothèse dont j'ai demandé au scientifique, mon ami Yves Agide, si c'était juste un petit délire personnel et une histoire de philosophe, ou si ça avait un ancrage
et
possible dans notre cerveau.
Vous avez répondu quoi, le neurologue ?
Eh bien, il m'a répondu, c'est pas sûr, mais c'est possible.
Ah bah, écoutez, c'est déjà pas
et
mal.
Voilà, ça me suffit.
Eh bien, merci à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. Je marche, donc je pense. Eh bien, ce matin, on pense surtout dans ce studio, mais c'est vrai que ça nous donne envie aussi d'aller nous dire, dégourdir un peu les jambes. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à faire quelques pas, mais n'allez pas trop loin, vous restez à l'écoute sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On parle de la marche ce matin. La marche qui a des pouvoirs bénéfiques sur nous et même sur notre façon de penser. On continue de détailler tout ça avec Yves Agide, professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire, ainsi qu'avec Roger Paul Droit, philosophe et écrivain. Alors j'ai une question pour tous les deux. On vient de parler du langage. Est-ce que le langage améliore notre façon de penser ? Je crois que vous n'êtes pas d'accord sur le sujet d'ailleurs. Roger Paul ?
Oui, je soutiens avec bien d'autres philosophes, je ne suis pas du tout seul à penser cela, mais qu'il n'y a pas de possibilité pour les êtres humains de penser indépendamment du langage. Ça ne signifie pas du tout qu'il faut exprimer forcément tout ce que l'on pense, mais que ce qui nous distingue des autres animaux sur cette terre, c'est entre autres choses d'avoir un langage parlé, articulé, qui marche, qui fonctionne, par une série comme ça de représentations en liant des sonorités à des idées. Et les vaches reconnaissent leur pré, évidemment. Elles peuvent avoir d'une certaine manière elles discernent l'herbe, ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, mais elles n'ont pas l'idée du chant et ne peuvent pas dire, eh bien, je suis passé de tel... je vais faire un champ de recherche, par exemple, ou je vais faire un champ de réflexion. C'est-à-dire que la possibilité de faire glisser une idée dans un autre registre, ça, c'est quelque chose qui est proprement humain. Et Yves n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée qu'il juge discutable.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que Roger Paul s'égare complètement. Bien entendu.
Les vaches font des choses très intéressantes.
C'est un problème, je crois, qui n'a pas de solution. Donc, pas encore, peut-être qu'un jour on l'aura. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on entend par le mot « langage ». Le langage, c'est l'élocution, c'est-à-dire la partie motrice de ce qu'on veut exprimer, mais c'est surtout ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire la pensée qu'on veut exprimer. Mmh. Et cette pensée qu'on veut exprimer, c'est là où il y a un débat possible, c'est que je maintiendrai avec quelques arguments que l'idée précède le langage. Autrement dit, que l'idée, donc la pensée primaire, s'exprime à l'aide du langage, c'est-à-dire à l'aide des mots qui sont conçus dans notre cerveau. Et à l'appui de ça, j'ai quelques arguments. Bon, c'est le langage des animaux qui peuvent communiquer entre eux sans avoir l'élocution. Ils ont d'autres moyens de communiquer avec leur corps, avec des gestes, des bruits et des choses comme ça, de manière plus ou moins élémentaire. Il y a les sourds-muets, mais enfin, Roger Paul m'a bien répondu sur le problème des sourds-muets. Et il y a une autre chose, peut-être plus personnelle, c'est que nous connaissons des patients qui ont perdu l'usage de la parole, qui ont réussi à récupérer, et qui disaient « je ne pouvais pas parler, je ne comprenais pas bien, et pourtant je savais ce que je voulais dire ».
Roger Paul, est-ce que l'environnement dans lequel on marche joue un rôle ? Marcher dans la nature ou dans une ville, j'imagine que ça ne stimule pas le cerveau de la même façon. Votre marche à vous, hein, dans le livre, elle s'étend sur les quatre saisons. En automne, là, par exemple, la marche et la pensée sont influencées par les feuilles qui tombent ou c'est indépendant ?
Le fait de marcher à l'extérieur, ça peut être à l'extérieur dans une ville, évidemment, mais encore plus dans... les paysages naturels, je crois que ça a comme principal effet de nous reconnecter à quelque chose de terrestre. Nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus agitées, speedées, finalement aussi où notre corps, entre les escalators, les transports en commun, et les voitures, fonctionne assez peu. Mmh. Et le fait de retrouver la lenteur du pas, ça, c'est une chose, je crois, très importante, qui nous rend à la fois extraordinairement modestes, parce que c'est pas à pas, il faut le temps qu'il faut, il faut parfois des heures, etc. Et en même temps, qui nous donne une forme de puissance, parce que quand au bout d'un moment, on regarde le chemin parcouru, quand en montagne, on voit la vallée, etc., on a physiquement le sens de ce que notre corps, tout modeste qu'il soit et si faible, peut faire.
Accompli.
Professeur Agide, on va voir, vous pouvez compléter, bien sûr, sur marcher seul ou sur un tapis, marcher marcher dans la nature ou sur un tapis de course, par exemple. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que marcher seul a les mêmes bénéfices de marcher en groupe. Vous avez marché à deux pour écrire ce livre-là. On sait que les groupes de randonneurs se délèguent de marcher en groupe et discutent beaucoup, justement, en marchant. Est-ce qu'il y a un intérêt à marcher à plusieurs, comme ça ?
Alors, c'est deux choses différentes. Quand on est seul, on est face à un environnement. Mais il faut comprendre que notre cerveau, tout seul, il n'a pas de sens. Il n'a de sens que par rapport à l'environnement. Parce que l'environnement, la forêt, par exemple, c'est des informations qui arrivent à votre cerveau par les sons, par la vision.
Les odeurs.
Les odeurs, tout ce qu'on veut, c'est traité dans le cerveau. Et vous répondez par de la motricité, vous avancez. Donc, il n'y a pas de mouvement sans l'environnement. Un cerveau ne fonctionne que dans un environnement donné. Alors, on peut en éprouver du plaisir ou parfois pas de déplaisir, ça dépend dans quelles circonstances on marche. Alors, pour répondre à votre question, quand on est seul, moi je donne mon expérience personnelle, si je pars avec un questionnement profond, difficile, là vraiment j'ai des idées tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, avec Roger Paul, c'est tout à fait différent parce qu'à ce moment-là, c'est le plaisir d'être avec un ami, d'échanger. et de lui de me titiller avec des questions embarrassantes et vice-versa. Mmh. Donc là, c'est la joie du dialogue, c'est autre chose. Mais c'est aussi source d'idées nouvelles hein, en même temps.
Roger Paul, la marche, ça peut être aussi une activité physique spirituelle. Hein. Les pèlerinages se font souvent à pied, il y a les marches méditatives également. Comment ça s'explique ? C'est parce que c'est une activité physique qui nous laisse le temps de penser ?
Parce qu'elle nous laisse le temps de penser, parce que le fait de parcourir un espace avec les seuls moyens de notre corps, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous porte à réfléchir. Ça n'est pas un hasard, je crois, que le fait que les itinéraires spirituels se marquent par des marches. Mmh. C'est très fréquent, que ce soit dans les pèlerinages chrétiens, les chemins de Compostelle, que ce soit dans les itinéraires des bouddhistes, par exemple, il y a aussi les mêmes genres de lieux auxquels on va. Et le fait d'y aller est un parcours qui n'est pas simplement un parcours physique, mais essentiellement un parcours personnel de maturation, de changement. Donc ce n'est pas seulement une activité physique, si vous voulez, c'est une activité spirituelle. Et l'idée que l'existence soit un voyage, que l'être humain soit un marcheur en chemin, ça c'est des choses que l'on trouve pratiquement dans toutes les traditions spirituelles.
Professeur Agide, alors la marche, elle peut être spirituelle, on vient de le comprendre. Pour terminer, est-ce que la marche, elle peut être aussi thérapeutique peut-être ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, vous avez conseillé à des patients souffrants ? Est-ce qu'on peut guérir en marchant ? Est-ce qu'il y a ce pouvoir-là ?
Là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Guérir, n'allons pas trop loin. Mais d'abord, pour l'être normal, c'est quand même fondamental de marcher. Pourquoi ? Parce que c'est une activité motrice. Vous êtes comme un moteur. Si vous faites fonctionner le moteur, c'est bon, ça fait les muscles restent bons. Et surtout, psychologiquement, c'est ça que je pense, c'est que psychologiquement, c'est très important pour tout le monde de marcher, d'avoir des exercices physiques d'une manière générale. Mais, alors maintenant, si on a des pathologies, si on a des affections du système nerveux, c'est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que vous avez un défaut dans la marche, équilibre ou la posture. À ce moment-là, on sait que le cerveau a des possibilités de restauration. Mmh. Donc, si vous mettez en route le moteur, vous allez stimuler un certain nombre de neurones qui étaient défectueux ou des neurones à côté, ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui vont essayer de compenser le travail des autres. Donc, c'est absolument essentiel. Et pour si je devais réunir les deux idées, c'est-à-dire du normal et du pathologique, par exemple, vous-même et quelqu'un qui a eu malheureusement une maladie de Parkinson, par exemple, au cours du vieillissement, c'est absolument essentiel que les gens fassent de l'exercice physique et fassent de la marche.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteront en savoir encore davantage sur cette promenade, cette marche entre un philosophe et un neurologue, je rappelle le livre de Roger-Paul Droit et de Yves Agide, c'est « Je marche, donc je pense » paru chez Albin Michel. Merci encore. Et
merci
Mélanie,
à
présent, on va marcher vers d'autres sujets.
Oui, dans quelques minutes, on va accueillir nos bienfaitrices du jour. On commencera avec les conseils 2.0 de Sophie Braffman. Elle a enquêté dans la maison sur les applis ou les objets connectés qui peuvent nous faciliter le quotidien. Et puis, on va aussi jouer un peu avec Perrine Bramy. Elle nous propose de tester un jeu qui s'appelle Ma petite planète, à faire en famille ou entre amis. L'idée, c'est de passer à l'action pour des défis écolos du quotidien. À tout de suite sur Europe 1.